Le travail que je vais vous présenter, en fait, fait partie d'un mémoire de recherche que j'ai fait dans le cadre d'un master au Langzhou. J'ai une double formation religieuse et scientifique. Donc la formation religieuse, je l'ai faite à l'Institut Al-Razali avec le cheikh Abdelrahman Abdelmadi qui est ici présent. Et mes études arabes, je les ai faites à l'Institut des langues orientales à Paris. Donc, et je suis aumônier pénitentiaire, effectivement. J'ai voulu faire ma thèse, mais n'ayant pas trouvé de subvention, j'ai abandonné. Alors, je vais vous présenter, j'ai cheminé depuis le temps, donc j'ai un peu évolué aussi par rapport à mon mémoire. Et je vais vous parler de ce verset de la lumière qui comporte, selon moi, un présupposé sémantique qui est assez important. Alors, l'analyse rhétorique. Il faut savoir que donc, j'ai fait un mémoire sur ce qu'on appelle l'analyse rhétorique, qu'on appelle aussi la rhétorique sémitique. Il faut savoir ce que c'est. C'est un outil issu des études bibliques, justement, qui vise à redécouvrir les techniques d'écriture et de composition que les scribes du monde sémitique ancien mettaient en œuvre. C'est bon, tout le monde m'entend ? Ouais. Pour rédiger leurs textes. Donc le mot rhétorique ici n'est pas est à prendre ici au sens précis de l'art de la composition du texte. Ce qu'Aristote appelait la disposition. Ce n'est pas la rhétorique grecque, c'est une rhétorique sémitique. La rhétorique sémitique montre, tandis que la rhétorique grecque démontre. C'est une expression de Roland Méné, qui est le chef de file de la rhétorique biblique et sémitique à Rome, à la grégorienne. Donc, pour commencer, je vous présente rapidement, parce que si je ne vous présente pas la sourate, vous n'allez pas comprendre le sens de mon propos, dans la mesure où l'analyse rhétorique donc, étudie la composition des textes, mais le but de l'analyse rhétorique est exégétique, c'est-à-dire comment interpréter ces structures. Pour vous présenter rapidement les deux grands principes de la rhétorique sémitique, il y a en premier lieu des symétries que l'on découvre dans le texte de tous ordres, grammaticales, sémantiques, linguistiques, rythmiques, sonores, etc. Et ces symétries, partielles ou totales, dessinent des figures de composition dans le texte, c'est-à-dire par exemple des chiasmes, ou s'il y a plus de quatre éléments, ce qu'on appelle des constructions spéculaires. Il peut y avoir un centre dans la construction spéculaire, dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle un concentrisme, une construction concentrique, ou bien de simple parallélisme. Il y a trois types de symétries, c'est les symétries, donc les parallélismes, les symétries antithétiques et les symétries complémentaires. Je vais vite, mais c'est pas je ne vous fais pas un exposé d'analyse rhétorique. Je vais arriver au résultat, à l'interprétation à laquelle je suis arrivé grâce à cet outil. Et le deuxième grand principe qui a été découvert par Roland Méné, donc assez récemment, ça fait quand même déjà 30 ans, mais la rhétorique sémitique, ça a 200 ans dans l'étude biblique à peu près, ça commence au 18e avec Robert Laws, sur la tradition, sur la poésie sacrée des Hébreux, donc l'analyse des psaumes. Le deuxième grand principe, c'est que ces figures de composition se trouvent à différents niveaux du texte. Au plus bas du texte, à l'échelle d'un segment, composé de plusieurs membres, un ou plusieurs membres, maximum trois, c'est ce qu'on appelle un stygue dans la rhétorique grecque, d'accord ? Au plus haut du texte, ça peut être plusieurs segments qui forment un morceau, donc on va retrouver une autre figure de composition au sein du morceau, plusieurs morceaux forment une partie, on va retrouver une autre composition, plusieurs parties forment un passage, on a une autre composition, une autre figure, etc. On monte, on a de plus en plus de textes, d'accord, jusqu'au plus haut du texte, qu'à l'échelle de la sourate, et voire du texte coranique en entier. Évidemment, on n'en est pas encore là, puisqu'on n'a pas analysé de manière rhétorique, on n'a pas encore fait l'analyse rhétorique complète du Coran. Bon, alors donc j'ai fait l'analyse rhétorique de la sourate de la lumière. J'ai trouvé cette construction, c'est-à-dire trois séquences disposées en concentrisme. Vous avez la séquence A et la séquence C qui sont des séquences extrêmes qui se répondent, qui sont parallèles, qui sont symétriques, et qui encadrent une séquence B qui contient que des paraboles. Bon, le titre est encore à travailler de la séquence B, des paraboles de la lumière sans doute, j'y reviendrai. Voilà, alors avec cette originalité que le premier verset est un incipit, d'accord, je vous le présente tout de suite. Donc vous avez deux segments, un premier segment de trois membres et un segment tout seul. Et vous avez ici donc une sourate que nous avons révélée et que nous avons prescrite. Et nous avons révélé en elle des versets distincts. Donc les versets et sourates se répondent. Nous avons révélé, donc c'est une reprise, c'est une symétrie, c'est synonyme, enfin c'est identique, c'est-à-dire c'est le même terme. Donc je ne vais pas aller au-delà pour vous expliquer tout ce que je veux, tout ce qu'il y a dans cette... dans ce morceau de deux segments, mais là ce que je voudrais simplement signaler, c'est que cette sourate nous donne le programme de la sourate. Ce verset nous donne le programme de la sourate. Il nous dit clairement, d'accord, que des versets à caractère législatif ont été révélés, que nous avons prescrits, et que en elle, d'accord, fiha, dans cette sourate, il y a d'autres versets qui ne sont pas législatifs. D'accord ? Des versets distincts. Ayat Bayyinat. Donc on a, en quelque sorte, l'annonce déjà de la construction concentrique, à savoir qu'on a des versets législatifs qui encadrent des versets distincts à l'intérieur, qui sont des versets qui rappellent énormément de passages bibliques. Au début, effectivement, je vais en parler. Alors j'avance. Donc voici la composition de la séquence. Oui, je vais prendre ça quand même, c'est intéressant. Donc ce verset indiquerait que le terme suratun par lequel il commence désignerait une construction. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre le mot surat. C'est une construction, une surat. De versets différents mis ensemble, ou de groupes de versets différents mis ensemble. C'est un peu l'idée qui sort de ce verset. Par lequel il commence, oui, donc une construction, d'accord, une rangée. On rappelle que le mot surat veut dire une rangée de pierres, un mur, à la base. Organisé. Et que le syntagme ayat bayyinat signifierait ici des versets formant un intervalle. Hein, je rappelle que la racine bayana veut dire à la fois séparer et réunir. Donc un groupe de versets qui en séparerait d'autres, mais qu'ils réuniraient ensemble au sein d'une unité plus grande qui est la sourate elle-même. Alors la séquence, rapidement, la séquence A. Donc vous voyez, vous avez une construction spéculaire, c'est-à-dire que vous avez chaque passage qui se répond. Les passages extrêmes se répondent, les passages ensuite, le deuxième et le cinquième se répondent, et le troisième et le quatrième se répondent. Donc c'est là qu'il est question effectivement d'une calomnie. Je vais en parler. Ensuite, vous avez donc cette séquence initiale, du verset 2 au 33, est un appel à la pureté, un appel de Dieu à la pureté, au repentir et à la morale sexuelle. C'est les différents thèmes traités. La séquence C, la séquence qui est parallèle à l'autre bout de la sourate, elle est disposée également en miroir, hormis le quatrième passage, qui a son double, quatrième passage d'hospitalité sacrée envers les infirmes et les malades, qui a son double au niveau de la sourate. C'est-à-dire qu'on est à un niveau textuel supérieur. Et c'est pour ça qu'ici, on ne le retrouve pas. Mais on va le retrouver à l'échelle de la sourate tout entière, qu'on appelle, qui a la taille d'une section. Voilà, concerne l'appel du prophète Mohammed, notamment en matière de jugement et son caractère sacré. La séquence centrale maintenant, alors, une construction concentrique, vous avez les versets 34 et 46 qui encadrent cette séquence composée d'une série de paraboles. Dans la première sous-séquence se trouve le verset de la lumière, à proprement parler, hein, qui est une parabole de la Ménorah, je vais y revenir. Ce passage est parallèle à trois autres passages situés dans la seconde sous-séquence, 36 à 45, jour de l'expiation, Yom HaKippourim, le double parabole du pécheur, la triple parabole de la création, c'est ce qu'on trouve dans la deuxième partie de la séquence centrale. Et c'est la fin du verset 35, du verset de la lumière, qui occupe la séquence, le centre de la séquence. Ce verset qui dit وَيَدَرِبُ اللَّهُ alim. C'est ce qu'il y a ici. Dieu parle en parabole. Dieu parle en parabole aux gens, et Dieu est de toutes choses savant. Voilà. Alors, voyons maintenant la parabole de le verset de la lumière en tant que tel, que j'ai appelé la parabole de la Ménorah. Effectivement, le verset 34 qui le précède nous dit ceci. « Et oui, nous avons révélé des signes clairs et une parabole de ceux qui ont passé avant vous. » C'est-à-dire une parabole de ceux qui ont passé avant vous. Donc, ça fait allusion à un texte tiré d'une écriture précédente. Et une leçon pour les pieux. Donc, le verset de la lumière est un verset, effectivement, qui est très célèbre, comme l'a dit M. Mentrera, à la fois dans la tradition musulmane, abondamment commenté, mais aussi par l'islamologie occidentale. Or, à la différence des exégètes musulmans, seulement, il n'y a que des chercheurs occidentaux qui ont vu les liens entre ce texte et le chapitre 4 du livre de Zacharie dans la Bible. Mais si les chercheurs ont vu les liens qu'il y avait entre ce texte et Zacharie 4, peu, pour ne pas dire pas du tout, ou aucun, pardon, n'a su expliquer, selon moi, de façon satisfaisante, les différences remarquables qu'il y a entre les deux textes, et qui sont très importantes pour comprendre la vision coranique. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici. Donc vous voyez, juste en termes de présentation de ce qu'on appelle la rhétorique sémitique, vous avez ici une construction concentrique, où on voit la figure de l'arbre, l'olivier, qui est au centre de la composition. Vous avez effectivement des parallélismes, le nom de Dieu qui encadre, qu'on ne trouve qu'aux extrémités, le nom de lumière aussi qu'aux extrémités. On ne trouve absolument pas la lumière au centre, dans le morceau central. Par contre, au centre, on trouve que un champ lexical sur la lumière. D'accord ? C'est pour faire vite. Ensuite, ici, vous avez le texte de Zacharie 4. Alors, l'analyse rhétorique de ce passage biblique montre qu'il est composé de trois parties formant un concentrisme. Les parties Alors, la traduction est très littérale, hein, c'est, ne m'en veuillez pas, mais c'est en analyse rhétorique, il faut être le plus près du texte arabe, ou enfin du texte hébreu en l'occurrence ici. Les parties extrêmes traitent de la ménorah et des deux oliviers, tandis que dans la partie centrale s'opère un changement dans le discours où est introduite une idée nouvelle, c'est la seconde loi de Lund, la pierre du sommet, Ha-Even Ha-Rosha, ou pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre sur laquelle va être reconstruite le second temple de Jérusalem, celui-là même, cette pierre-là où était l'arche d'alliance dans le premier temple. Alors, comparons les deux textes. Plusieurs éléments significatifs se retrouvent dans la parabole coranique. Tout d'abord, les deux passages ont la même structure concentrique. Ensuite, dans les deux figures d'image de la lampe, je rappelle que menorah veut dire lampe, hein, en hébreu, en arabe c'est le mot misbah. Donc ensuite, dans les deux textes figurent l'image de la lampe et de l'olivier ensemble. Les deux oliviers de Zacharie produisent une huile brillante pour la lampe, à l'instar de l'olivier coranique. Donc, je reviens. Vous voyez, la lampe est allumée à partir d'un arôme, ni un olivier, ni oriental, ni occidental. Voilà, le terme. Ensuite, le mot le terme biblique Yishar, au verset 14 de la racine Sahara, briller, luire, désigne une huile pure qui brille. Donc c'est l'image aussi qu'on a dans ici. Son huile brille quasiment sans même que de la touche un feu. Enfin, le mot Gulla. Alors, le mot Gulla, c'est très intéressant ce mot. Il n'a pas été relevé là-haut. Vous l'avez ici. En hébreu, il est polysémique. Il signifie récipient ou réservoir. Mais plus intéressant, il signifie boule. Également, comme Joulla. En arabe, on a le mot Joulla aussi, qui veut dire une boule. Et source. Joulla veut dire aussi source. Très intéressant. C'est pourquoi Rashi précise dans son commentaire que ce mot est à comprendre dans, comme dans les sources supérieures. Goulot. C'est une source ressemblant à une grande coupe ronde. Intéressant. Et donc, ce Goulla, en fait, ce sens de Goulla, source, reprend précisément l'expression, ou plutôt boule et source, cette double sens, cette bisémie, est reprise par l'expression coranique « Ezzoujeja ka'annaha ka'okabun doriyon ». C'est là que j'arrive au présupposé sémantique. Alors, on y va. Hop. C'est ça. Donc, « Zoujeja » est un mot d'origine syriaque. Vous l'avez là-haut, hein. La lampe est dans une coupe, « Zoujeja ». Zoujaja est un mot d'origine syriaque exprimant autant la substance transparente du verre que le récipient à boire, exactement comme le mot verre en français. Lane, Edward Lane, dans son fameux dictionnaire, utilisé par tous les chercheurs, précise en outre qu'il peut avoir la forme d'une coupe ou d'un bol. Le syntagme kaokabun duriyun a aussi un double sens. Or, à notre connaissance, ni les traducteurs ni les exégètes ne le signalent. Le seul sens retenu est astre étincelant, ça c'est chez Blacher et Boubacar, astre de grand éclat chez Hamidullah, étoile brillante chez Masson, étoile de perle chez Berck, etc. Mais Lane rapporte que Kaukab veut aussi dire la source d'un puits, ou plus simplement une eau, ma'on, un liquide. De même, l'adjectif d'Uriyun, de par sa racine d'Arara, signifie à la fois brillant, d'un vif éclat, et ruisselant. Darara, ça veut aussi dire ruisseler, couler, en arabe. L'expression coranique évoque donc une double image, comme dans Zacharie 4, celle d'une coupe, comme le Goulla, je veux dire, celle d'une coupe transparente qui a la forme d'une boule lumineuse, un astre, si l'on veut, une planète, et celle d'un récipient à huile qui sert de source à la lampe, exactement comme dans la vision de Zacharie, où le récipient recueille l'huile dorée provenant des deux oliviers. Je vais revenir sur le texte, si vous voulez. Je suis reparti, oui. Exactement comme dans la vision de Zacharie où le récipient recueille l'huile dorée provenant des deux oliviers, puis alimente les sept lampes placées au-dessus de lui par sept conduits que sont les sept branches de la ménorah. D'un point de vue figuratif, là il faut imaginer, il faut vous représenter la ménorah. Le chandelier sacré a une forme évasée, avec un pied, donc ressemble à une coupe, il a la forme d'une coupe en soi, d'une lampe dans une coupe. Et les sept branches, c'est l'expression coranique, hein, dans laquelle est une lampe, la lampe est dans une coupe. Et les... Pardon, j'en étais... La menorah est un peu... Et les sept branches, excusez-moi. Et les sept branches évoquent l'image... Les sept branches évoquent l'image d'une source ruisselante comme un delta, si vous préférez. Donc, la menorah était faite d'une seule pièce en or, nous dit la Bible. Hein, c'est dans Exode 25, verset 31, nombre verset 8, chapitre 8, verset 4. D'une seule pièce tout en or. L'huile, donc, c'est-à-dire l'huile qui circule dans la coupe transparente, la fait briller comme de l'or avant même que ne touche l'un des feux de la lampe. Comme ici au verset 35. Qu'elle alimente à son sommet. Lumière sur lumière, donc. On a une première lumière, puis une lumière sur lumière. Il faut le prendre au sens littéral. C'est deux lumières superposées. Alors, on peut le prendre comme ça, je veux dire, hein, j'impose rien. C'est une hypothèse hein, de travail. La métaphore coranique est donc très belle. Ailleurs dans la Bible, la menorah est appelée « lampe de Dieu ». Et dans le texte de Zacharie, les sept yeux de Dieu qui sont mentionnés, qui sont mentionnés au début de la troisième partie, ces sept-ci sont les yeux de l'Éternel, qui part pour la terre, toute la terre, semble désigner l'omniscience divine qui voit tout. Hein, et cette omniscience, on l'a effectivement, alors pas dans cette construction, mais elle fait partie du verset 35 de la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la transition avec les paraboles suivantes de la séquence, où Dieu dit, et Dieu parle, le Coran dit, et Dieu parle aux hommes, parle en parabole, aux hommes, et Dieu est de toutes choses savant. Voilà. Autre point commun, les deux textes élargis au verset 36-38 dans le cas du Coran. C'est-à-dire que là, il faut élargir ce texte à la suite de la séquence, on va y venir, révèle la signification de ce qu'ils décrivent. Les deux textes parlent de ce que ça veut dire. Et à chaque fois, il y est question des maisons de Dieu, des sanctuaires, des demeures. Ici, c'est au centre. Les parallélismes entre les versets 35 et 38, alors j'ai dû le mettre quelque part, voilà, vous avez le verset 35, ensuite le verset 36 et 38, enfin de 36 à 38, c'est la suite. Les parallélismes entre les versets 35 et 36-38 montrent que le Coran compare la niche, Mishket en arabe, d'accord, c'est là-haut, qui abrite une lampe à des temples où est invoqué son nom. Buyutin adinallahu an turfa'a yuzkara an yurfa'a yuzkara ismo. D'accord, des temples, des buyut. D'accord. La Bible, quant à elle, évoque la reconstruction du temple de Jérusalem par les mains de Zorobabel au retour de l'exil à Babylone. Remarquable est d'ailleurs l'homophonie du terme coranique Mishkat, en haut, d'origine éthiopienne, avec le mot hébreu Mishken, El-Gines. Mishken qui littéralement veut dire demeure en hébreu, par lequel est nommé le tabernacle original ou tente du rendez-vous, du rencontre, le sanctuaire portatif des Hébreux dans le désert avant la construction du premier temple de Jérusalem. Ces sanctuaires avaient deux chambres séparées par un voile, le saint, appelé Khodesh, abriter la menorah, qui était la seule lumière dans le temple, dans le tabernacle, et au fond, derrière le voile, dans le saint des saints, Kodesh HaKodashim, reposait l'arche d'alliance renfermant les deux tables de la loi révélées à Moïse sur le mont Sinaï. Le Coran fournit d'ailleurs un détail révélateur, son nom, nous dit son nom, hein, et dans lesquels est invoqué son nom, ou Shem, son nom, pour indiquer qu'il parle, sans doute, probablement, de ses sanctuaires. Selon la Mishnah Yoma, tout à fait pour être exact, le nom de Dieu, ou Shem HaMeforash, le nom distinct de tous les autres, d'une façon, c'est une possibilité de traduction, représenté par le tétragramme, vous savez, les quatre lettres hébraïques, Yod, He, Vav, He, n'était prononcé que dans le temple de Jérusalem, et uniquement par les prêtres, autrement dit, des hommes. Rijel, lui rendent hommage dedans, matin et soir, des hommes. Des prêtres, autrement dit, des hommes, comme dans le texte coranique, et seulement en deux occasions, par le grand prêtre, Kohen Gadol, au jour de l'expiation, Yom HaKippurim, et par les prêtres, Kohanim, lors de la Hamida du matin, où il bénissait le peuple, mais uniquement dans l'enceinte du temple, en dehors duquel la prononciation de son nom était formellement interdite. Le motif d'un olivier, maintenant, ni oriental, ni occidental, occupe une position centrale, on le voit d'un point de vue rhétorique, au niveau du premier passage, hein, il est au centre, hein, il est disposé vraiment au centre. Il est placé au milieu. Le motif d'un olivier ni oriental ni occidental, en d'autres termes, ni à droite ni à gauche de la menorah qui était placée au sud, dans le saint, face à la table des pains de proposition située au nord, est une image volontairement inversée des deux oliviers, l'un à droite, l'autre à gauche, qu'on trouve dans le texte biblique. que sont ces deux oliviers sur la droite de la menorah et sur sa gauche. C'est une image volontairement inversée dans le Coran, où il n'y en a plus qu'un, qui n'est ni à droite ni à gauche, enfin, ni à l'ouest ni à l'ouest, parce qu'il représente Zorobabel et Josué dans la tradition juive, c'est-à-dire les deux pouvoirs temporels et spirituels que le Coran réunit en une seule et ultime figure, le prophète Mohammed. Ce dernier est le siège d'une nouvelle révélation divine avec laquelle il exerce une fonction royale, celle de rendre la justice, dont il est précisément question dans les deux séquences extrêmes de la sourate. Ce motif peut encore signifier que l'olivier occupe une position centrale, comme l'arbre de vie au milieu du jardin, dans la Bible, dans Genèse. Genèse 2, je crois. Oui. Saint Éphrem, le Syrien, du 4e siècle, appelle ce dernier l'arbre béni, comme le Coran. Je vais revenir au texte. Exactement, Saint Éphrem l'appelle pareil. L'arbre de vie au milieu du jardin, il l'appelle l'arbre béni, il l'appelle soleil du paradis, astre brillant, ça nous rappelle Kaukabundurig, soleil du paradis, et le compare au saint des saints. Il symbolise la présence divine comme le tabernacle originel, cet arbre au milieu du jardin. La présence divine, comme le tabernacle. Ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, nous dit la Bible. Exode 25, 8. Ailleurs, Éphrem établit une relation entre la menorah qui éclairait la tente du rendez-vous et l'arbre de vie. Il dit ceci, « C'est encore l'huile qui travaille dans la lampe, elle s'active à faire croître l'arbre de lumière pour qu'il répande sa clarté dans l'obscurité. » Il n'y avait aucune lumière dans le sein des saints, hormis une lumière surnaturelle qui brillait entre les ailes déployées des chérubins, sur le propitiatoire de l'arche, le couvercle de l'arche de l'Alliance. Elle formait le trône de Dieu qui symbolisait sa présence. Shekhina en hébreu, Sakina en arabe. Lorsque le tabernacle fut construit, Dieu parlait à Moïse entre les deux kéroubim. Selon le Midrash, la première fois qu'il lui parla en cet endroit, l'appel concernait l'allumage de la menorah qui devait briller à perpétuité. Le verset 35 s'ouvre sur la lumière originelle. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, comme dans la Bible. Genèse 1, 3. Mais nul ne peut se la représenter, d'où la nécessité de courir à une parabole, à une métaphore. À quoi sert cette métaphore? C'est à représenter, ça fait faire une idée de la lumière divine. La menorah symbolise la lumière spirituelle, elle est le signe de la lumière primordiale dans la tradition juive. Dans la vision de Zacharie, la menorah figure l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on voit au centre parle de l'esprit de Dieu, oui, c'est au centre, mais par mon esprit. Dans la vision de Zacharie, la menorah figure l'esprit de Dieu. Cette lumière est invisible à l'esprit nu, à l'œil nu, pardon. Elle est voilée à l'instar de l'arche, derrière le parochet, le rideau, que nul n'avait le droit de franchir à l'exception du grand prêtre, un jour par an, et non sans avoir accompli au préalable des rites de purification drastiques. C'est le jour de l'expiation, ce qui est évoqué, selon moi, selon mon hypothèse, dans les versets 36 à 38. C'est le jour de l'expiation, le fameux Yom Kippour, le jour le plus saint, le plus solennel de l'année juive, qui selon toute vraisemblance est visé dans la parabole coranique, un jour chômé, un jour on ne travaille pas, le dit le Coran, que ni le négoce ni la vente ne distrait, durant lequel le grand prêtre était admis en présence de Dieu. Il prononçait son nom et de l'invocation de Dieu. Il prononçait son nom durant les confessions, implorait debout le pardon de Dieu, du dressement de la prière, et accomplissait le rituel sacrificiel de purification des péchés d'Israël dans le sein des saints. Et de l'offrande purificatrice. Les pontifes devaient redouter ce jour. Qui redoute un jour où seront redoutés les cœurs et les regards. Les pontifes devaient redouter ce jour, car la proximité divine impliquait qu'ils soient des hommes purs, pour que l'Esprit de Dieu illumine leur cœur et leur regard dans l'obscurité du Saint des Saints, afin qu'ils ne commettent aucune erreur dans le rituel qui les aurait privés, eux et le peuple, de la grâce divine, évoquée aussi dans le verset, ici, et leur ajoute de sa grâce. Ah, 5 minutes, ok, je vais faire vite. Le Coran fait peut-être un jeu de mots, alors on passe, c'est pas grave. Oui. Un autre détail important permet de penser que les rijel, les hommes, désignent au... Pardon ?
Moi, je veux bien le jeu de mots, excusez-moi.
Ah, là, ah bon, vous voulez le jeu de mots ? Bon, alors, je vous donne le jeu de mots. Le Coran fait peut-être un jeu de mots avec le syntagme « na ». Vous voyez là-haut, là ? Parce que ça rime, hein, d'un point de vue du tajwid. « Absad » et « Absar » et « nar », il y a une « imala » en arabe, dans les règles du tajwid. Donc, ça va ensemble. « Ner »,« Absar », on ne dit pas « nar » ou « Absar », on dit « ner ».
Quand on prononce, voilà, selon les règles tajwid. Or, « ner », ouais. Or, « ner » signifie aussi bien « feu » que « lumière » en hébreu. Il y a peut-être une allusion aussi ici. Un autre détail important permet de penser que les rijel, les hommes, sont les grands prêtres. C'est la symétrie entre les versets 35 et 36 qui mettent en rapport les syntagmes homme, olivier, vous voyez, homme, olivier et huile. On a lu, je l'ai oublié de le surligner. Pour désigner des hommes consacrés, ce qu'étaient les pontifes, les grands prêtres. Des hommes consacrés, des messies, si vous préférez frotter avec de l'huile. À savoir les pontifes qui, chacun, au jour de son onction, puis quotidiennement, devaient présenter une offrande au Seigneur, la moitié le matin, l'autre moitié le soir. Matin, c'est soir. Yusabbihu lahu fihi bil ghudwi wal afal. Allusion, peut-être. Le Coran recoupe. Oui, je vais conclure. Voilà. Alors, conclusion. La conclusion. Alors, j'ai pas le temps de vous présenter la suite. Évidemment, ça aurait été intéressant de vous expliquer tout ça. Ah, j'ai presque fini, en fait. Ouais. Bon, on va voir. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire de plus important ? Oui, le rôle de la séquence... Dans l'analyse rhétorique, le centre, quand il y a des figures de composition concentrique, c'est le centre qui est la clé d'interprétation de la structure. Donc, il faut partir du centre pour éclairer les extrémités. Ici, il faut partir de la séquence centrale pour éclairer les séquences extrêmes, qui sont des séquences législatives, je vous ai dit. Dans la première, ici à l'écran, le motif de la grâce divine, en jaune, apparaît 4 fois. D'accord ? Il est répété à 4 fois. Les versets 35 à 38, la séquence centrale, viennent illustrer la nécessité d'un repentir que Dieu exige de tous les croyants, ici, à titre propitiatoire, comme au jour de l'expiation, parce qu'ils ont commis un terrible péché, ils ont colporté une calomnie. Dont il est fait allusion au verset 15, lancé par une minorité d'entre eux au lieu de la dénoncer. C'est l'histoire de Aïcha, nous dit la tradition musulmane, qui aurait été accusée d'adultère avec Safwan ibn Mu'attal. Hein, c'est une histoire qui s'est passée lors d'une expédition. Aïcha a traîné, elle est sortie du palanquin, elle a perdu un collier, elle cherche son collier, les gens s'en vont sans avoir remarqué qu'elle était descendue du palanquin. Du coup, elle reste, quand elle revient sur les lieux, l'armée était partie, et donc du coup, c'est ce fameux Safwan qui marchait, qui fermait la marche, qui la récupère et qui la ramène. Et là, donc, il y a eu une rumeur qui a enflé, comme quoi ils auraient eu des rapports charnels, adultères. Bon. Ce qui est probablement vrai, hein, parce que c'est tellement négatif. Oui, c'est vrai. C'est une affaire assez négative. C'est pas. C'est le Coran ici n'est pas du tout géographique, j'ai envie de dire. Bon. Alors, allons-y au fait. Oui, pardon, la conclusion. Donc, ils ont colporté une calomnie. D'accord, verset 15, lancé par une minorité d'entre eux au lieu de la dénoncer. Si la faute est grave pour les calomniateurs qui accusèrent d'adultère injustement une femme mariée, Mohsinah, elle l'est aussi pour la communauté croyante. Une double parabole du pécheur se trouve dans la séquence centrale, que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Pourquoi la question du témoignage ici surlignée en bleu ? Pourquoi la question du témoignage traverse-t-elle toute cette séquence initiale ici à l'écran ? Parce qu'il implique en cas de mensonge la profanation de son nom, qu'on a vu dans la séquence centrale, hein, dont nous parle le Lévitique au chapitre 19, verset 12. Dans la dernière séquence, ce crime est dénoncé de manière encore plus explicite au verset 53. Je peux vous le mettre là, on doit le voir, verset 53. Et ils ont juré par Dieu en serment solennel. Le Coran appelle donc tous les croyants à se purifier en leur prescrivant, comme au jour de l'expiation, dans la tradition juive, qui sert d'exemple, en leur prescrivant, mathel, en leur prescrivant de nouvelles règles expiatoires qui sont les signes même de la grâce divine. Le caractère inviolable des maisons d'autrui, verset 27-29, de la nudité de ses hôtes, verset 58-60, une conduite chaste et pudique, verset 30-31, le mariage des célibataires, 32, c'est tout ce qui se passe, c'est tous les thèmes abordés dans les séquences extrêmes. L'affranchissement des esclaves, verset 33, la fin de la prostitution, verset 33, le salut de la paix, verset 27 et 61, l'hospitalité envers les infirmes et les malades. Une attitude révérencieuse à l'égard du prophète qui implore le pardon de Dieu pour eux, comme le Cohen Gadol, pendant le jour de l'expiation. L'importance d'accepter ses jugements, verset 51, et de répondre à son appel. Plusieurs injonctions coraniques rappellent certaines obligations d'Israélite avant... J'ai fini ou pas? Il reste...
Bah écoutez, vous avez dépassé légèrement, mais il y a une petite tolérance quand même.
D'accord, c'est gentil, merci.
Une deux minutes, si vous avez...
8. J'ai pas la 9. Si la 9 est là. Donc plusieurs injonctions coraniques rappellent même certaines obligations des Israélites avant et le jour du Kippour, la confession du pénitent pour l'expiation, qu'on a ici au verset 5. Je l'ai mis, je crois, en bleu. Sauf ceux qui se sont repentis après cela et se sont réformés. La réconciliation entre croyants par le pardon, verset 22, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne et Dieu est pardonneur. Tel est le prix de l'absolution. Le thème des maisons... je finis là-dessus. Le thème des maisons en tant qu'espace sacré et inviolable est présent dans les trois séquences. On l'a vu avec le temple de Jérusalem. Il existe encore une relation sous-entendue entre la parabole des grands prêtres au jour de l'expiation, dans la séquence centrale, versets 36-38, et l'affaire de la calomnie. Le chapitre 16 du Lévitique est entièrement consacré à la description du service spécifique au jour du Kippour. On y lit ceci. « Et Aaron amènera le taureau expiatoire qui lui est destiné afin d'obtenir grâce pour lui et sa maison. » La Mishnah commente même « Or, sa maison signifie son épouse. » Donc on a des liens quand même assez intéressants, il me semble, avec la tradition juive, non pas que le Coran se contente de reciter, mais sur lesquels il s'appuie pour délivrer un nouveau message. Il parle à un public qui a déjà, si j'ai envie de dire, on est à Médine, normalement, donc on est un public juif en plus, mais qui a un horizon culturel qui a connaissance peut-être de ces traditions.